Pourquoi parler d'une quête ? Eh bien parce que ce n'est pas si simple que ça de définir ce qu'est l'impact pour une entreprise aujourd'hui. C'est tellement pas si simple qu'il faut mener certaines investigations poussées pour déterminer quels sont les impacts positifs que l'on peut attribuer à telle ou telle entreprise.
Et c'est en investissant dans des entreprises qui mitigent bien leurs impacts négatifs inhérents à leur secteur, tout en tentant de générer un impact positif, que l'on va réussir à répondre aux grands défis de notre monde, avec notamment celui qu'il devient urgent d'endiguer, celui du changement climatique. Grâce à nos invités, que nous avons sélectionnés parce qu'ils incarnent cette volonté de changement profond, nous allons tenter de mener l'enquête pour être certains que chaque euro investi génère dorénavant un impact positif.
Je suis Marc Vamser et je vous donnerai le point de vue du banquier investisseur.
Je suis Paul Allard et je vous donnerai le point de vue de l'entrepreneur. Rosalie Vendette, qui est une pionnière de la finance durable, a été durant plus de 9 ans leader de la pratique d'investissement responsable chez Desjardins. Aujourd'hui, elle est directrice chez Quinn & Partners, qui est un cabinet de consultants spécialisé en développement durable. Alors, bonjour et bienvenue, Rosalie.
Bonjour.
Bonjour.
On a eu l'opportunité de se croiser à plusieurs reprises depuis quelques années. On va commencer avec une question qui est la question qui est plus personnelle.
Oh.
Qui es-tu? D'où viens-tu?
Alors, Rosalie Vendette, j'évolue dans le secteur de la finance durable depuis cette année 20 ans. En fait, j'ai démarré il y a un petit moment et moi, j'arrive d'une longue lignée d'entrepreneurs située au nord de Montréal, en fait. Et j'ai étudié les affaires, je me suis spécialisée, à votre grande surprise peut-être, en marketing. Parce qu'à l'époque de mes études supérieures, on n'offrait pas, du moins au Canada, on n'offrait pas le développement durable. Alors, je ne savais pas que le développement durable allait être ma voie. Et après environ 5 ans dans le domaine marketing, je me suis mis à questionner davantage les normes, les idées reçues et le bien fondé de certaines tactiques marketing sur le plan social, ce qui m'a tranquillement amené au développement durable. Une longue quête pour créer du sens avec ce qui occupe la majeure partie de mon temps, c'est-à-dire mon travail. Et créer du sens, pour moi, ça a été une révélation quand j'ai découvert la responsabilité sociale en entreprise, en fait. J'ai toujours évolué au sein de petites et grandes entreprises. Et je me suis dit, c'est pas vrai que ces entreprises-là peuvent pas prendre conscience des impacts négatifs qu'elles ont. Et donc, comment on peut les reconnecter avec ces éléments-là et faire en sorte que les impacts négatifs soient pris en compte dans la prise de décision, donc dans l'élaboration de la stratégie, dans la gouvernance.
Toi, tu dis que tu viens d'une longue lignée d'entrepreneurs. Qu'est-ce qui t'inspirait dans ceux qui t'ont entouré pour justement remettre du sens ou focaliser sur ce sens?
Je pense qu'honnêtement, les entrepreneurs que j'ai côtoyés quand j'étais adolescente, mes parents incluant, c'était des gens qui avaient des projets, qui avaient une vision. Pas nécessairement sociétal, mais au moins de développement économique. Donc, se sustenter et nourrir plein de monde, offrir des emplois, en fait, qui permettent à plein de familles de pouvoir vivre, offrir des produits de qualité qui permettent aux gens de pouvoir évoluer. Donc, moi, mes parents, c'était des quais pour les marinas, pour les bateaux, mais qui alliaient à la fois la technique du bois et qui a par la suite évolué vers l'aluminium et qui a terminé même avec le ciment, avec un territoire de vente qui a commencé avec le Québec, mais qui est allé jusqu'à l'Amérique du Sud à la fin. Mais ce qui me frappait le plus de ces gens-là, c'était la bataille constante pour survivre et avoir du succès, alors que, on a à jongler avec une foule de choses. Fait que le début de ma vie, ça a été plutôt les petits entrepreneurs. Puis quand j'ai été sur le marché du travail pour la première fois avec mon diplôme en main, je me suis dirigée vers des très grosses entreprises où là, c'était complètement différent. Mais mon premier emploi, c'était dans les téléphones sans fil. C'était la course folle au profit parce qu'à l'époque, des premières, c'est la deuxième vague de licences, en fait, pour les sans fil au Canada. C'était à l'époque la création des systèmes de réseaux cellulaires, donc des dépenses immenses pour installer des tours. Alors, la machine marketing derrière poussaient beaucoup, beaucoup pour l'adoption du téléphone sans fil. Alors, il faut que je vous ramène à l'époque où une personne sur quatre avait un téléphone au Canada. Donc, il y avait une course folle qui incitait grandement les gens à se développer des besoins pour se procurer un téléphone sans fil pour ensuite parler le plus souvent possible. Et c'est même, je crois que le succès est là, ça a même délogé le téléphone filaire dans bien des occasions. Le téléphone sans fil est devenu téléphone numéro un. Mais il y avait peu de, selon moi, il n'y avait pas assez de soucis de l'impact sociologique que ces nouveaux comportements, que cette nouvelle technologie avait comme dans le marché, les répercussions que ça engendrait. Et pour moi, c'était un manque flagrant. Et c'était la principale source des questions que je posais puis des interventions que je faisais. Puis on me disait toujours, dans des grands groupes, ça n'a pas sa place. Les questions que tu poses, Rosalie, n'ont pas leur place parce que ce n'est pas dans le courant des affaires. Et en dehors des réunions, on venait me voir.
Ah oui, tu
disais. Dehors des réunions, on venait voir. Ah oui, on me disait carrément, c'est out of order.
C'est pas le sujet. L'entreprise, c'est pas le sujet de s'occuper du social ou donc par répercussion de l'environnement. C'est juste maximiser les profits.
Exact. Mais plusieurs individus, après la rencontre, venaient me voir individuellement pour me dire, ouais, je suis un peu d'accord quand même. Tu sais, c'est On sentait qu'il y avait une résonance chez certains, mais qu'il n'y avait pas sa place. Ce n'était pas un sujet qui pouvait être officiellement débattu ou inscrit à l'ordre du jour des réunions ou dans le cours normal des opérations. Ça a pris beaucoup de temps avant que les démarches de nature, développement durable, responsabilité sociale trouvent une brèche, ouvrent une porte, que ce soit assez grand. Parce qu'aujourd'hui, on en parle tout le temps, mais là, je vous ramène à la fin des années 90, au début années 2000, d'accord. Quand j'ai entrepris cette démarche-là. Mm-hmm. Exact, on n'en parlait pas. C'était pas un sujet traité dans les médias couramment et c'était pas un sujet qui était enseigné dans les écoles de commerce. Donc, c'était vraiment des intellectuels, des bien-pensants qui commençaient à re-questionner un peu, à revoir un peu les théories.
Et donc, tu étais spécialisé dans la responsabilité sociale des entreprises, dans le développement durable. Et à un moment, tu as basculé vers la finance durable, si j'ai bien compris. Et comment tu t'es dit que, justement, c'était par la finance que potentiellement une partie du problème pourrait être résolu?
C'est pas exactement comme ça que ça s'est produit. J'étais spécialiste de marketing et quand j'ai trouvé le développement durable et la responsabilité sociale, je me suis mise à cogner à toutes sortes de portes. Pour demander, est-ce que vous croyez que je peux obtenir un emploi au Canada, au Québec, dans le domaine, ou est-ce que je devrais plutôt considérer une formation universitaire de second cycle et aller dans un endroit comme la France, où on l'enseigne, parce qu'à l'époque, on commençait à l'enseigner. Et au fil de mes rencontres d'information, il y a une opportunité d'emploi qui s'est produite au groupe Investissement Responsable. Donc, c'était 2003. Une petite PME québécoise qui évoluait déjà depuis 3 ans. Donc, le choix de la finance a été un hasard complet pour moi. J'avoue, même au début, j'étais un peu inconfortable parce que la finance, c'était pas un domaine qui m'avait plu particulièrement quand j'ai été à l'université. C'était pas un domaine que je maîtrisais, mais alors là, pas du tout. Mais ça, c'est pas grave parce que ça me correspond. Trouver et emprunter les chemins les moins fréquentés, c'est une des façons d'évoluer, selon moi, dans la vie. Donc, j'essaie de me pousser puis de me mettre au défi toujours pour aller vers des domaines que je connais moins. Donc, la finance, après quelques mois uniquement, j'ai trouvé que c'était un endroit fascinant parce que ça correspondait pour moi à... un endroit, c'est un type de partie prenante, si on prend particulièrement les investisseurs et les conseils d'administration, donc les investisseurs qui sont actionnaires d'entreprise. Pour moi, ça correspondait à l'endroit, le centre névralgique de la prise de décision. Déjà très tôt dans ma carrière, je sentais que c'était par là que ça devait passer. Donc, par là qu'il fallait modifier l'ADN des conseils d'administration, donc modifier la façon de penser de ces conseils-là pour que les conseils puissent débattre et donner des instructions aux dirigeants d'entreprise et insérer l'environnement, insérer les considérations sociales dans le mixte des choses à considérer. Et j'ai trouvé ma voie. J'ai été au groupe Investissement Responsable pendant 6 ans et au cours de ces 6 années-là, on a monté un système de vote pour actionnaires, pour investisseurs. Donc, ce qui fait qu'aux assemblées annuelles des actionnaires, on exerçait des votes au nom de nos clients qui étaient des investisseurs institutionnels, des régimes de retraite, des fondations, des gestionnaires de portefeuille. ça m'a vraiment amené au cœur de la finance. Et après les 6 années, j'ai cherché des nouveaux défis, ce qui m'a amené au Mouvement des Jardins. Alors, pour les Québécois, c'est un nom très connu, mais pour les Français, ça l'est peut-être moins. C'est la plus grande coopérative financière au Canada, des Jardins, qui dans sa fondation, qui ressemble beaucoup au Crédit Agricole, mais qui est officiellement jumelé avec le Crédit Mutuel, on tient à préciser. Et là, j'ai été la première employée à temps plein et porte-parole de l'investissement responsable. Donc, on m'a engagée dans un secteur qui touchait spécifiquement les produits d'épargne, donc les fonds communs de placement et les autres produits qui permettent à l'investisseur individuel de pouvoir associer son épargne ou une partie de son épargne avec des véhicules qui sont en investissement responsable, donc qui intègrent des considérations environnementales, sociales et de gouvernance. Et comme j'ai l'habitude, je ne me limite pas tout le temps à l'emploi qu'on me confie, c'est-à-dire qu'on m'a dit « ta zone d'influence, c'est ceci ». Alors moi, j'en ai créé 3 autres, puis j'ai dit à mes patrons, si jamais vous trouvez que dans les 3 autres, je m'écarte trop, vous me ramènerez à l'ordre. Mais c'est jamais ou presque jamais arrivé parce qu'en fait, je travaille énormément. Donc, je m'assurais que dans le nombre d'heures par semaine, je faisais mon emploi. Et en dehors de ça, j'effectuais encore plus de présentations, je faisais du bénévolat, je menais plein d'activités qui me permettaient, qui m'ont toujours permis de rayonner, de faire connaître le sujet, de développer mon réseau au fil des 10 années.
Et chez Desjardins, si on reste un peu sur Desjardins, parce qu'effectivement, c'est là qu'on s'est rencontrés, comment est-ce que tu fais face au défi de trouver des produits des produits qui sont réellement responsables? Parce qu'on le sait aujourd'hui, depuis plusieurs années, la crise de confiance sur les réels impacts qu'ont des produits financiers qui se disent responsables est assez généralisée. Exact.
Oui, j'étais dans les débuts, mais le Mouvement des Jardins avait déjà commencé avant moi. Donc, leur premier produit avait été créé en 1990, le Fonds des Jardins Environnement. Donc, quand j'arrive, Desjardins a déjà 5 produits, ce qui est petit, mais c'est de... Du point de vue canadien, c'est déjà beaucoup. Et là, on est en 2009. Je crois même que par rapport à la France a connu une explosion un petit peu après, je crois. Même en 2009, il n'y avait pas une tonne de produits qui existaient en France. Donc, Desjardins a déjà des produits. Donc, il y a déjà des collègues qui travaillent. Il y a déjà un partenariat qui est avec Placement NEI parce que Placement NEI est spécialisé dans les fonds d'investissement responsables. Donc, mon travail à moi, c'est d'aller vers un autre niveau. Ce n'est pas moi qui crée les produits ou ce n'est pas moi qui trouve les produits, c'est des collègues. Moi, je suis au service, dans le service marketing, ce qui est paradoxal, je reviens au marketing, mais c'est là où la directrice qui m'embauche est située. C'est des budgets qui sont associés à des budgets marketing qu'on emploie pour travailler les caractéristiques des produits d'investissement responsable. Donc, on a des équipes qui étudient les besoins, on a des équipes qui créent des produits, on a des équipes qui vont chercher des gestionnaires de portefeuille externe, mais on ajoute à ça le vote, on ajoute à ça le dialogue d'actionnaires pour influencer les entreprises. On ajoute à ça des communications, de la recherche, des partenariats. En fait, c'est des processus, ça devient des caractéristiques des produits, mais en fait, c'est des processus pour aller chercher davantage d'informations sur les impacts, les répercussions négatives. Au début, on se concentre davantage sur les répercussions négatives. Il viendra ensuite un peu plus l'attention aux répercussions positives des produits. Je crois que le succès de mon travail se tient beaucoup plus au fait d'avoir sensibilisé à la fois les collègues. Donc, bâti une équipe, sensibiliser des gens qui, aujourd'hui, portent le dossier de l'investissement responsable. Ils sont probablement une cinquantaine à temps plein ou à temps partiel. C'est incroyable comment l'intérêt s'est multiplié. C'est une vraie contamination positive. Donc, sensibilisation des collègues à tous les niveaux, incluant les patrons. Mais sensibilisation aussi, et ça, c'est à ne pas négliger, de la force de vente, donc les porteurs du message qui vont vers les investisseurs individuels. Et une des façons de les attirer ou d'attirer leur attention, c'est la sensibilisation du grand public. Donc, des présentations grand public, des entrevues médias qui font en sorte que le sujet gagne en importance. Et s'il gagne en importance, ben ton conseiller financier va trouver que c'est important lui aussi ou elle aussi parce que les clients risquent de poser des questions dans les bureaux. Donc, c'est cet agencement-là des différents points de pression qui a fait en sorte, avec un timing qui était probablement très bon, hein, c'était dans l'air du temps, qui a fait en sorte qu'on a eu vraiment beaucoup, beaucoup d'attention portée vers le sujet, ce qui s'est transformer ou concrétiser, si vous voulez, en augmentation des ventes. Donc, ça prenait un succès commercial. Il fallait que les produits plaisent et connaissent un succès avec des rentrées d'argent pour que le sujet gagne aussi en importance, tant à l'interne qu'à l'externe.
Intéressant de voir justement comment une entreprise qui a l'air quand même assez engagée a mis en place de plus en plus de processus et a fait grandir la part de l'investissement responsable. Ma conviction, c'est que pour que la finance durable soit jugée comme crédible, on a besoin d'avoir des acteurs qui soient engagés à 100%, c'est-à-dire pas uniquement des acteurs qui proposent des produits d'investissement responsable, mais qui prennent en compte les sujets d'investissement responsable sur la totalité de leur activité. Est-ce que c'est un mouvement est-ce que justement ce qui a été fait dans ces 10 dernières années a permis à Desjardins de tendre vers cette approche holistique?
Oui, je suis plus porte-parole de Desjardins, mais je suis observatrice. J'aurais tendance à répondre que oui, en théorie, c'est-à-dire que le sujet est devenu tellement important qu'il est porté par le président directeur général maintenant. Et il en parle beaucoup. M. Guy Cormier en parle fréquemment. J'ai l'impression qu'il en parle aussi souvent qu'il le peut. Il se déplace sur plein de tribunes. Alors, c'est sûr qu'engager à 100%, peut-être dans la tête de plein de gens, on peut y croire. Moi, je pense que dans une activité commerciale qui existe depuis X nombre d'années, c'est très, très difficile à mettre en place le 100% parce que en quelque part, il y a plein de gens qui y travaillent qui vont comprendre que ça veut dire renier ce que j'ai fait dans les 5, 10, 15, 20, 30 dernières années ou encore forcer mon client ou forcer plein de parties prenantes à choisir maintenant de basculer à 100%. La vie, à mon avis, elle est pas faite comme ça. Elle est faite de grandes transitions. Et donc, c'est pour ça que je dis, moi, je suis d'accord à 100% en théorie, mais en pratique, la transition est beaucoup plus lente, c'est beaucoup plus difficile. Et ça demande énormément d'efforts parce que moi, ce que je souhaiterais, c'est que 100% des conseillers en parlent dans 100% des rencontres. Et que cela occasionne des taux de succès, des taux de conversion assez élevés. En fait, en théorie, quand on fait de la recherche, c'est à peu près 80-85% le taux de conversion qu'on pourrait aller chercher. Mais en pratique, ce n'est pas ce qui se passe, parce que ce n'est pas tout le monde qui en parle 100% du temps.
Tu parles de transition, qui est un bon point. Aujourd'hui, en finance durable, on est confronté à une crise de confiance par rapport aux résultats parce qu'on a vu les derniers rapports du GIEC, les rapports de répartition des richesses, les rapports sur la biodiversité qui sont plutôt négatifs. Donc, collectivement, sur la planète, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à renverser la tendance ni au niveau du CO2. Mais est-ce que tu crois que collectivement, la finance, on a ce temps ou est-ce que la finance en fait assez aujourd'hui pour aller vers cette transition puis cette finance responsable qui ne devrait pas être une niche, mais qui devrait être mainstream?
Alors, je ne pense pas qu'on a le luxe de ce temps-là et je ne pense pas que la finance en fait assez. Mais selon moi, c'est à peu près les seules options qu'on a. Je ne vois pas, si je dis on n'a pas assez de temps, on n'en fait pas assez. Je ne me vois pas quand même intervenir de manière différente pour être plus radicale et demander une révolution. Selon moi, c'est inévitable que le changement passe par une transition qui est progressive. Ce que je souhaite, c'est que la prise de conscience, qu'on voit une courbe exponentielle et qu'en ce moment, on en soit uniquement qu'au début. Parce que même si les gens le comprennent, je ne pense pas qu'on a quand même commencer à modifier drastiquement les comportements. Mon plus gros défi, c'est que ça a pris énormément de temps parce que c'est un grand groupe et les décisions sont très lentes. Et par conséquent, de ce que moi j'ai vu sur les 10 années, c'est pas assez de ressources consacrées à ces choses-là. Et c'est sûr que les gens à l'interne vont vous dire « Ah oui, il y a eu beaucoup de ressources », mais il faut se dire, il faut être honnête, il y a des belles initiatives. Si on donne des petits budgets qui font une grosse différence, imaginez si on donnait des gros budgets, la quantité de différence. Mais je reviens à ce que je disais, je pense que c'est fait exprès aussi parce que des changements trop vite, ça bouscule trop les choses, ça déstabilise, ça insécurise.
Oui, du côté de perspective des institutions financières, effectivement, il ne faut pas qu'ils soient déstabilisés trop rapidement. Marc, toi, tu as une petite entité par rapport à des grandes, mais quand même chez vous aussi, ça prend le temps que ça prend, quoi.
Oui, on est une banque très agile parce qu'on est à taille humaine et pour autant, il y a le temps bancaire. Par exemple, on est en cours de crédit. J'ai des crédits qui ont en moyenne aujourd'hui entre aux alentours de 7 ans de durée de vie. Bah, je peux pas les changer du jour au lendemain. Pareil pour les actifs sous gestion. Je peux pas tout vendre et tout racheter. Et puis, ce dont tu parlais aussi, Rosalie, c'est-à-dire il faut que la totalité des collaborateurs soient convaincus pour que le changement fonctionne aussi. Donc, il y a tout un travail de conviction, d'éducation. Et ça, qu'on soit 100 ou 53 000, bah, ça prend du temps, évidemment.
Tout à fait.
On le sait qu'en Europe, le secteur financier est beaucoup plus avancé pour plusieurs raisons, mais qui fait en sorte aujourd'hui qu'il y a des régulations, il y a des obligations de reporting extra-financier, que ce soit le SFDR, que ce soit la taxonomie européenne, que ce soit même l'association, le EBA, le European Banking Association. Donc, c'est contraint, c'est obligatoire. Et donc, la plupart des institutions financières sont sur ce parcours de très rigoureux qui s'améliore d'année en année. Comment tu vois la différence en Amérique du Nord? On n'a absolument presque aucune obligation, aucune régulation que le bon vouloir. Puis bon, avec mon âge, mon expérience, le bon vouloir, on sait que ça ne change pas le monde.
Je pense que l'Europe est à la base plus avancée par rapport à la sensibilisation des populations. Il y a le choc pétrolier des années 70, le territoire qui est plus habité, fait en sorte que je pense que il y a beaucoup, beaucoup de peuples en Europe, dans les pays scandinaves, entre autres, qui comprennent les défis, qui agissent depuis déjà un bon moment. Alors que quand on arrive au Canada avec l'étendue de terre, on nous dit un jour, on va manquer d'eau. Le Canada, il comprend pas ça parce que nous, on regorge d'eau. Oh, un jour, on va manquer de biodiversité. Le Canada, on comprend pas ça non plus parce que on se tourne tout partout, on a des contrées vertes. C'est contre-intuitif pour bien des gens dans la population parce que quand on regarde juste autour de nous, on les voit pas ces défis-là, ou en tout cas, on les sent très peu. Et par rapport à la réglementation, ben, on a une tradition qui est beaucoup plus de comply or explain, c'est-à-dire un peu de laisser faire. On pousse pas énormément avec la réglementation, dans le sens où on n'est pas au Canada interventionniste, comme par exemple la France peut l'être, où la France va utiliser la réglementation pour faire au secteur des choses qu'elle peut pas faire autrement. On n'a pas cette tradition-là, ce qui fait qu'on accuse du retard, selon moi, mais je souhaite ou j'espère que ce retard-là, ça soit qu'un retard de quelques années. Et si on prend l'exemple, par exemple, de ce qui se passe au niveau comptable avec l'International Foundation for Reporting Standards, on voit un peu comment ça va se développer, quels seront les points communs puis quelles seront les différences. Donc, pour les auditeurs, l'International Foundation on Reporting Standards, c'est l'organe international qui développe et endosse les principes comptables généralement reconnus qui sont adoptés par, je crois que c'est 95 pays, dont le Canada. Les IFRS, c'est ça. Et récemment, le IFRS a créé le International Sustainability Standard Board, donc qui va développer des principes de divulgation en matière de durabilité, justement, pour qu'ils soient internationalement reconnus. Et je dois l'avouer que IFRS et ISSB travaillent très, très vite. Ce qui fait qu'ils ont annoncé récemment que dès la fin de juin 2023, on verra deux nouveaux standards voir le jour, un standard de divulgation ESG puis un standard de divulgation changement climatique. Et ces standards-là vont être en vigueur à partir du 1er janvier 2024. Donc, à partir du cycle de reddition de comptes, des rapports qui seront publiés en 2025, on va voir. Pour les organisations qui auront adopté volontairement ces standards-là, on va commencer à voir ce qui va les conséquences ou les bienfaits de cette standardisation-là. Et par la suite, on va voir les pays, les différentes juridictions qui vont s'aligner, qui vont adopter ces standards-là dans leur réglementation. Et ça va prendre un petit moment avant que cette réglementation-là, on voit le jour. L'Europe, qui endosse l'IFRS puis l'ISSB, est aussi partie très vite avec les FRAG. Il va plus loin, donc plus de standards et il va plus loin avec ça. Et je pense qu'au final, c'est très bien parce que, selon moi, l'Europe montre la direction. Donc, l'IFRS va probablement nous donner des standards qui seront les minimums et FRAG va probablement aller plus loin. Mais au final, c'est important de faire les deux, je pense. C'est important d'amener tout le monde à une base. Et c'est peut-être un peu difficile d'imaginer que tout le monde va pouvoir aller à un niveau idéal. Et donc, ce que moi, je vois, c'est qu'en Europe, il y a beaucoup, beaucoup d'insatisfaction. Il y a beaucoup de mécontentement. Il y a beaucoup d'allers-retours. On se cherche. La réglementation, elle évolue. Elle change d'une année à l'autre. Moi, j'entends beaucoup, beaucoup de conversations. Puis je trouve que ça peut avoir un effet distrayant par rapport aux affaires aussi. Donc, il peut y avoir des effets pervers. Il y a des pour et des contre dans toutes les situations, j'ai l'impression.
Aujourd'hui, la problématique de l'ISSB, qui est la petite sœur de l'IFRS, qui a été créée un peu par les Américains et puis les Japonais, soyons clairs, a un standard beaucoup plus, c'est un standard non obligatoire qui est beaucoup plus bas, c'est-à-dire qui regarde que les effets négatifs sur la performance financière de l'organisation. Ce qu'on appelle simple matérialité, on en a parlé plusieurs fois dans le podcast, tandis que l'Europe a obligatoirement mis en place, qui a commencé en janvier 2023, les CSRD, qui fait que toute organisation, même non européenne, qui a des activités en Europe, devra se conformer à une approche de reporting extra-financier qui inclut pas seulement l'effet de l'environnement social sur le risque financier de l'organisation, mais qui inclut ce qu'on appelle la double matérialité, aussi l'effet des activités de l'organisation sur l'environnement social. Donc aujourd'hui, on va avoir un ISSB beaucoup plus bas en termes qui ne change pas de monde, qui est certes louable comme objectif, mais qui n'est pas obligatoire, et un set de données, c'est-à-dire un reporting obligatoire qui est double matérialité, qui est européen. Donc le dernier rapport de Reuters, un analyste disait que finalement, ce qui va se prévaloir dans les prochains mois, ça va être que les grandes organisations ne voudront pas se faire organiser leur structure de reporting sur deux standards, vont aller vers l'obligation, l'obligatoire, et ça va trickle down. Et on souhaite que l'ISSB aille vers ce qui est le standard de double matérialité, parce que c'est, à mon avis, c'est seulement par la double matérialité qu'on pourra faire changer les choses. Mais effectivement, on verra. Puis tous ces travaux-là, de toute façon, sont bons. C'est déjà d'une prise de conscience qu'il y a des débats entre comment le faire et comment mieux le faire. Ce n'est que bon déjà qu'on ait le débat, ça veut dire que c'est une préoccupation. Déjà, c'est une bonne étape.
Peut-être pour reprendre, tu avais discuté de la partie que tu accompagnais, notamment des banques sur la partie net zéro. Il y a un certain nombre d'initiatives qui sont en train de se mettre en place, notamment la Net Zero Banking Alliance, et la même chose pour la Net Zero Asset Management Initiative. Est-ce que ce genre d'initiatives vont dans le bon sens? Est-ce qu'elles sont utilisées par tes clients? Et pour revenir à ce que disait Paul, est-ce qu'il y a une approche standard? Puisque l'impression que j'en ai, c'est que ces initiatives mettent un cadre général, mais sont adaptées de manière très différente, acteur par acteur.
Oui, c'est une bonne question parce que souvent on a tendance même à remettre en question certaines de ces initiatives. Vu le nombre qui se multiplie, les engagements, on voit les organisations annoncer ces engagements-là, multiplier les annonces, puis on a de la misère à voir les résultats concrètement sur le terrain. Moi, je pense que ces initiatives-là sont excellentes, en fait, parce que c'est par là que l'innovation passe souvent. Je trouve que ça ressemble à ces initiatives qui ont été endossées par les Nations Unies, les principes pour l'investissement responsable, les PRI, ou les principes pour l'assurance durable, les PSI, ou encore les principes pour la responsabilité bancaire, les Principles for Responsible Banking. À la base, ce que ces initiatives ont, c'est de réunir les joueurs autour de grands principes et dire on va travailler ensemble, on va créer des comités de travail, puis au lieu de nous trouver les réponses chacun de notre côté, on va mettre en commun. Comme ça, au lieu d'avoir 28 cadres ou méthodes qui se développent, on va essayer de développer les méthodes ensemble parce qu'il faut l'avouer, la plupart de ces initiatives s'attaquent à un terrain qui est inconnu. Développer des procédures ou transformer la banque pour qu'elle vise net zéro dans ses activités bancaires, ça n'a pas vraiment été fait avant. Donc, je pense que c'est une façon de réduire le risque, mais c'est beaucoup plus aussi une façon de produire des nouvelles méthodes, du nouveau savoir, puis d'essayer d'être efficace avec ces énergies. Je les trouve, en tout cas pour les avoir étudiés, très de plus en plus développés et complexes. Donc, les gens qui vont avoir tendance à penser « Ah, c'est des grandes annonces, puis derrière, il ne se passe rien. » Non, 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 non. La plupart de ces initiatives-là ont une série d'exigences. Donc, c'est détaillé et de plus en plus détaillé. Donc, si on prend le dernier que je regardais, c'est le Net Zero Asset Owner Alliance. Par exemple, dans la mouture, la version numéro 3, l'annonce qui a été faite récemment, c'est que tout ce qui est le crédit carbone, ça n'est plus une mesure admissible. Vous pouvez la mettre dans votre plan d'action, mais on ne le jugera pas admissible, ça ne comptera pas. Et à mon avis, ça va dans le bon sens. Donc, on ne va pas essayer de donner une permission d'émettre encore des carbones en achetant des crédits puis en s'achetant la bonne conscience. Donc, c'est par là que l'innovation commence et c'est par ces initiatives-là, à mon avis, qu'on développe les processus, les cadres de référence qui, par la suite, sont adoptés par une série d'organisations qui ne vont pas nécessairement devenir signataires, mais qui endossent. Et c'est uniquement une fois qu'on a modifié les comportements de plusieurs organisations qu'on peut considérer, en tout cas dans notre façon de faire nord-américaine, la régulation. Parce qu'on a suffisamment d'acteurs qui créent une base de joueurs leaders, ou alors la pratique est rendue assez mature pour qu'on puisse dire, bien, au niveau de la réglementation, on ne va pas laisser, ça ne va pas être une grosse révolution, puis on va ramener les retardataires à un niveau de pratique minimum.
Quel est l'ODD auquel tu t'attaques le plus d'après toi? Quel est l'objectif du développement durable ou qui te représente ou qui fait en sorte que tu dis, ouais, ça, c'est ma contribution?
Ah, ben, c'est curieux parce qu'en fait, j'essayais de ne pas en choisir un parce que je veux travailler sur tous les objectifs de développement durable ou tous les défis. Donc, j'ai refusé de me spécialiser, même si on me considère une experte en finance durable, j'ai refusé dans ma carrière de me spécialiser sur un des sujets. Mais je dois avouer que ce qui nous fait travailler le plus ces temps-ci, c'est les changements climatiques, c'est l'ODD numéro 13, Climate Action, Action climatique. Parce que c'est ce qui mobilise le plus en termes de facteurs environnementaux, sociaux, gouvernance. Les conseils d'administration, c'est ce qui les questions qui viennent le plus de la part de nos clients. J'espère qu'on va collectivement migrer vers la biodiversité parce que ça comprend les changements climatiques. Et j'espère collectivement aussi qu'on peut migrer vers les inégalités sociales, qui n'est pas nécessairement un ODD, mais je pense que c'est un autre très grand risque systémique. Et les inégalités, selon moi, là, on commence à avoir un bon mix aussi du social puis de l'environnemental, ce que je trouve interconnecté.
On a énormément de défis aujourd'hui, comme tu viens de le dire, à la fois environnementaux, sociaux, les inégalités, le changement climatique, la biodiversité. Quel est, selon toi, en tout cas, le ou les deux principaux points d'action qu'on devrait mener collectivement pour essayer d'y faire face?
C'est l'éducation. Je pense que c'est, il n'y a pas d'autre façon de passer par l'information, la sensibilisation et l'éducation de tous. Si on peut le briser en silo si on veut, puis y aller d'un côté les individus, les consommateurs, puis de l'autre côté les décideurs, les travailleurs, au niveau de l'influence des entreprises. Mais je dis l'éducation et la sensibilisation parce qu'à mon avis, à partir du moment où la personne connaît et comprend, j'ai l'impression qu'elle ne peut plus revenir en arrière et qu'elle doit éventuellement agir. Alors, peut-être qu'il y a une différence de temps entre le moment où elle connaît, comprend, puis le moment où elle agit, là. Mais c'est ce que j'ai utilisé dans ma carrière le plus avec mes collègues quand j'étais chez Desjardins. Puis c'est ce que j'essaie d'utiliser le plus avec mes clients. C'est-à-dire que là où moi et ma firme, on a un impact le plus grand, je pense, c'est la modification des décisions qui sont prises chez nos clients, la modification de la façon de penser des gens avec qui on interagit. Parce que nous, on arrive, on intervient, on repart, et il arrive souvent que les clients nous rappellent, donc on développe une relation dans la longue durée, mais c'est eux, c'est les organisations, c'est eux qui mettent les choses en place. Et donc, moi, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai enseigné, que je fais beaucoup de présentations, parce que j'ai l'intime conviction qu'une fois que la personne le sait, elle ne peut plus agir de la même manière.
Ben, merci beaucoup, Rosalie. Continue ton travail. On se souhaite collectivement de se revoir avec une amélioration de la situation d'ici quelques années. On va se recroiser certainement à Montréal. Merci beaucoup pour ton travail et puis tes ta forte conviction qui est absolument requise pour justement cette transition. Merci.
Merci de m'avoir reçu.
Merci beaucoup, Rosalie.
Merci.
Donc voilà, qu'est-ce que tu as retenu de cet entretien qu'on vient d'avoir avec Rosalie, Marc?
Ce qui est assez intéressant avec l'histoire de Rosalie, c'est que ça raconte un petit peu l'histoire et l'évolution de la finance d'impact et de l'investissement impact, puisque elle a rejoint un groupe qui est un groupe engagé, qui a toujours été un groupe engagé, et d'abord en tant que dans le domaine de la communication. Et en fait, on se rend compte assez rapidement, elle s'est rendue compte assez rapidement, et l'entreprise s'est rendue compte assez rapidement que l'ESG, puis l'impact et la durabilité, c'était pas une question de communication. C'était quelque chose où il fallait avoir des méthodologies qui étaient strictes, des méthodologies précises et scientifiques, et que il fallait avoir des professionnels qui géraient cette partie-là. Et donc c'est assez intéressant de voir son parcours, où elle est passée de la communication, puis sur la partie un sujet stratégique dans le comité exécutif, et maintenant dans son cabinet où elle conseille les principales entreprises et qui est considérée comme un des points principaux des plans stratégiques des entreprises aujourd'hui.
Merci à tous d'avoir écouté cet épisode du podcast Enquête d'impact.
J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à l'enregistrer. N'hésitez pas à le partager sur l'ensemble des réseaux sociaux et à nous laisser des commentaires ou des idées pour de futurs invités.
À bientôt.
À très bientôt.